Eugène Duclay, les candidats excentriques, gaietés et tristesses électorales. Les médecins aliénistes prétendaient il y a une vingtaine d'années, un auteur anecdotique, Simon Brugal, ont observé que les périodes électorales amènent une recrudescence des cas de folie. Gardons-nous de nous inscrire en faux contre assertion énoncée d'ailleurs sans l'apport d'aucune statistique. Nous aurions probablement tort. Outre les conflagrations sociales telles que les révolutions, les émeutes et les grèves, ne savons-nous pas déjà que des événements retentissants comme catastrophes, crimes, procès sensationnels tourmentent fâcheusement la cervelle de nos contemporains? Ceux qu'en temps d'élection on qualifie de candidats toqués sont les victimes vouées de cet autre phénomène qui sévit constitutionnellement tous les 4 ans, la période électorale. La proclamation du suffrage universel mit sur pied le premier contingent de ces candidats. Dans ses murailles révolutionnaires, Alfred Dervaux nous a conservé les professions de foi. Dès 1848, l'amiral sonneur à Saint-Eustache veut être mandataire du peuple. « J'ai été, déclara-t-il, trop malheureux en ménage pour ne pas être heureux en politique. » Alof Poura, chef de bataillon de la deuxième, considère la France comme le Christ du monde séduit et démontrera à la tribune que le meilleur des engrais est l'engrais humain. Charlemagne Béjot propose de remplacer les statues du Luxembourg par des rosiers à 100 feuilles. Bellet, avocat à la cour d'appel et agriculteur, rêve d'établir une noblesse paysanne. Les 8 quartiers de paysannerie dont se targuait Proudhon auraient par exemple donné droit à un marquisat rural, rue d'Estrèmes, descendant du d'Estrèmes de la législative et des 500. Ce prévôt de son célibat. La nation sera ma famille, des lois équitables seront mes enfants. Desrosiers inventa en Seine-et-Oise la profession de foi illustrée. Il a donné ses affiches d'un bélier, d'un âne et d'un bœuf. Cet essai de vulgarisation artistique ne lui porta pas bonheur. Augustin Colson de la Meuse. Je dévoilerai à la France entière les causes de la maladie des pommes de terre et les moyens d'en atténuer les effets. Durant tout le règne de Napoléon III, les candidats toqués se tairent. Ces illuminés sentimentaux et humanitaires de la Deuxième République demeurent comme écrasés par le matérialisme du régime. L'organisation serrée de la candidature officielle annihile par avance toute velléité d'extravagance. Il se recueille à propos, car, ne l'oublions pas, le candidat excentrique n'est pas toujours un candidat fantaisiste. Il veut être élu. L'avènement de l'empire libéral soulève le filet qui emprisonnait les hannetons du suffrage universel. Les élections de 1869 nous ramènent Charlemagne Béjot. Vieilli, il s'arrache à des relations plus pratiques. Il propose alors d'établir sur le PLM des trains de plaisir qui permettront aux ouvriers de Paris d'aller passer le dimanche à Marseille au prix de 15 centimes. Son acolyte, rue d'Estrèmes, s'est exaspéré. Oh, qu'on lui donne seulement 15 jours de pouvoir afin d'exterminer Lucifer et de proclamer la divine justice. Le défilé continue. Gustave Grandin se présente contre M. Émile Ollivier. Pavé de bonnes intentions, il ne désire qu'une chose, faire exécuter les lois samaritaines qu'il aborde depuis 10 ans. La paix universelle par l'application de sa thèse, de l'antithèse et de la synthèse, s'écrit Pierre Manon, celle. Quant au docteur Grégoire, il veut bien abandonner son traitement de député en faveur des victimes d'accidents causés par les voitures de maître. 1871, la République, la liberté, c'est un débordement. Le citoyen Bonnemoulin se fait fort d'éteindre la dette nationale sans emprunt, sans impôt, sans assignat, grâce à une combinaison financière qui ne dévoilera que s'il est élu. Le citoyen Gosset, grand patriote, homme d'expérience et bien pourvu, sollicite la possession du palais royal, du palais de l'Élysée et du palais de l'Industrie. Il fera de l'un le siège d'une grande banque territoriale, de l'autre le centre d'une fédération agricole, du troisième une immense tribune pour le développement des idées à bon marché. Le Madiou de Charroux, Allier, promet de faire respecter la loi de Dieu. Il s'engage également à faire remplacer la lanterne des voitures par une sonnette. Charles Perrault, licencié en droit à Pont-de-Roide, dans le Doubs, se qualifie de candidat selon l'Évangile et d'ami des Prussiens. Barras de Béthune veut un impôt sévère sur les célibataires et les célibatrices, sikhs non mariés à l'âge de 30 ans. Paul Meunier de Commentry est l'apôtre de la virginité du cœur dans le mariage. Le marquis de Lorsérignan à Elbeuf fait un pressant appel aux paysans de la Seine inférieure. « Non mais moi, je suis des vôtres, puisque je suis charbonnier. » Ce qui préoccupe Mathieu Boube de l'île en Dodon, ce n'est pas la République, mais l'humanité. Il veut imposer à tous les citoyens français des croquants de sa composition, pétris avec de la farine de maïs et contenant les essences sublimées des corps végétaux les plus riches en matière curative que la nature ait jamais produite. Le candidat Châtelain dans la Mayenne est plus avisé. Il mettra à la disposition de ses électeurs son taureau, son bélier et son verrat pour aider à la reproduction de leurs semblables. Un de ses promoteurs de la Lune fut élu on ne sait comment par les électeurs parisiens. Ce fut Jean Brunet. L'Assemblée nationale s'en égaya jusqu'au moment où, à force de surenchères excentriques, il parvint à l'agacer tout à fait. Jean Brunet avait trois idées fixes. La reconstitution de nos anciennes provinces, la radiation des athées de la liste des jurés, la consécration de la France au Christ universel dans un temple central élevé sur le Trocadéro. Jean Brunet n'a pas vécu assez longtemps pour contempler la réalisation de son troisième idéal, mais sur la butte Montmartre. En 1881 et 1885 apparaissent les premières candidatures féministes, celle du docteur Comte Horace de Boudran, qui parle d'émanciper la femme, celle-ci étant ce qu'il y a de meilleur dans l'humanité, celle de Jachet de Grenier-Fujal, qui rêve d'une république fédérale universelle, dans laquelle l'homme se dépouillera de ses droits politiques en faveur de la plus belle moitié du genre humain. Enfin, celle de M. de Gasté, qui fait campagne pour sa fille. Outre cette copieuse liste de candidats toqués, il faudrait citer, pour être à peu près complet, la bonne douzaine de demi-fous qui amusèrent et héritèrent tour à tour les corps électoraux durant toute la fin du dernier siècle. Parmi les plus opiniâtres, citons le fameux Paulin Gagne, qui pendant le siège de Paris proposa de philanthropes âgés tous les vieillards âgés de plus de 60 ans afin de nourrir la population. Il poussa l'abnégation jusqu'à s'offrir le premier. Ennemi de la République qu'il appelait la rage publique, il avait imaginé 5 parachocs sauveurs de l'Arche France destinés à faire vibrer à l'unisson l'orgue des cœurs. Et sa vieillesse fut empoisonnée par les entreprises d'un homonyme extravagant comme lui, qui signait ses élucubrations, Joseph Gagne, cousin de l'immortel et populaire Archigagne. Citons encore ce que la chronique de 1910 a suffisamment interviewé pour l'édification de la postérité. Citons Renaudin, concierge, suppression des impôts, vote du budget facultatif, obligation du mariage à 30 ans pour les deux sexes. Citons Ernest Verrières, candidat réformiste éolien. Citons Étienne Coulet, tubiste à l'administration des postes, candidat combressiste. Étienne Coulet fut le premier qui protesta contre la catastrophe de Messine. Et pour terminer, citons le candidat Charles Marest. Oh, celui-là n'est pas un candidat toqué, c'est un candidat inconscient dans la plus stricte acception du terme. Charles Marest fut produit devant les électeurs à une réunion publique tenue au théâtre des Deux Masques par Madame Marguerite Durand, elle-même candidate dans la première circonscription du 9e arrondissement. Madame Marguerite Durand comptait disqualifier le suffrage universel en faisant s'égarer des voix sur la tête d'un Minus Amiens, son innocent complice. Elle n'y est pas parvenue. Le suffrage universel est assez grand pour se disqualifier tout seul.